Et bonjour et bienvenue sur Graphit, merci d'être avec nous. Nous sommes un groupe de 9 étudiants de l'UTC et dans le cadre d'un cours sur les sciences du débat public, nous animerons aujourd'hui l'émission Les échos de l'innovation. Les échos de l'innovation, c'est un rendez-vous hebdomadaire où l'on aborde différents sujets liés à l'innovation. Nous serons ensemble pendant l'heure et le sujet d'aujourd'hui se portera sur l'innovation dans l'agriculture. Nous allons parler d'agriculture urbaine, de smart farming, d'innovation dans la production de denrées alimentaires et plein d'autres sujets. Alors il y aura des débats où nous confronterons nos idées, ainsi que des chroniques qui nous permettront d'en savoir plus sur les différentes innovations en cours dans le monde. Tout cela nous permettra de répondre à une question fil rouge, l'innovation dans l'agriculture, miracle ou désastre ? Donc je vais tout d'abord laisser la parole à Antoine pour notre première chronique sur l'agriculture urbaine.
Merci. Donc je vais vous parler d'agriculture urbaine, cette pratique qui a tendance à s'accélérer de nos jours. Mais tout d'abord, je vais peut-être commencer par redéfinir pour nos auditeurs ce qu'est réellement l'agriculture urbaine. Donc concrètement et pour faire simple, l'agriculture urbaine, c'est la production de légumes, de fruits et d'autres aliments en ville. Cette pratique, elle se répand de plus en plus et selon l'Organisation des Nations Unies, environ 800 millions de personnes aujourd'hui se consacrent à cette pratique dans le monde. Cette activité est particulièrement développée dans les pays du Sud, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et commence seulement à s'installer dans les pays du Nord. En fait, l'agriculture urbaine répond à une demande croissante des citadins de retisser des liens avec la nature. L'agriculture urbaine, elle est souvent pratiquée par exemple sur des toits, dans des cours, dans des potagers partagés et également dans des espaces publics. Par exemple, à Paris, vous avez peut-être remarqué une centaine de jardins partagés qui ont été créés au toit des Galeries Lafayette. Maintenant que vous savez un peu mieux ce qu'est l'agriculture urbaine, vous vous demandez sûrement quels sont ses avantages et ses inconvénients. Donc le premier avantage, c'est que ces jardins participent au développement de la vie locale. Ils facilitent les interactions sociales et favorisent les rencontres entre générations. C'est aussi donc une manière de briser la fracture entre le monde rural et le monde urbain qui vivait jusque-là des réalités différentes. Également, l'agriculture urbaine permet de boucler en circuit court. Donc ça diminue les coûts, les émissions de CO2 et les besoins en énergie fossile liés au transport. Et ça me semble bon de vous rappeler que les aliments que nous consommons au supermarché parcourent parfois plusieurs milliers de kilomètres. C'est pas rare de voir origine Nouvelle-Zélande, ce qui est quand même assez loin. Et enfin, dernier avantage, c'est qu'en plus de vous permettre de consommer local et de manière responsable toute l'année, le développement des fermes urbaines génère des emplois, de la production jusqu'à la vente des aliments. En revanche, l'agriculture urbaine peut présenter malheureusement certains inconvénients. Certaines personnes ont rencontré des difficultés pour la mettre en place en raison tout simplement du coût de la vie urbaine. Par exemple, à Paris, là où le prix de l'immobilier est de 10 000 euros au mètre carré à peu près, réserver un mètre carré de son appart pour faire un jardin, c'est parfois très compliqué. Aussi, la qualité de vie s'est clairement dégradée de nos jours. La pollution nous entoure et elle a tendance à fragiliser les milieux, ce qui rend plus difficile la mise en place de l'agriculture urbaine. Et enfin, le dernier inconvénient, c'est qu'en été, l'accès à l'eau et la présence trop importante de soleil peut rendre très difficile l'obtention d'aliments et de rendements. Donc pour recapituler ce que j'ai dit, l'agriculture urbaine est une pratique écologique qui vise à produire des aliments en ville. Elle se développe de plus en plus car les citadins se sentent concernés par les enjeux de la transition écologique et par leur bien-être. Elle possède de nombreux atouts. En particulier, l'agriculture urbaine peut vous permettre de rencontrer des gens, de passer des bons moments en famille et de réduire votre empreinte carbone. Merci.
Merci beaucoup Antoine pour cette chronique. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur les formes que peuvent prendre l'innovation dans l'agriculture, donc on va commencer notre premier débat. Donc Antoine est toujours avec nous. Il y a également Iliès.
Oui, bonjour. Oui, bonjour.
Il y a également Souleymane.
Bonjour à tous.
Et Guillaume.
Bonjour.
Alors, le sujet de ce premier débat sera l'utilité du smart farming. Alors, qu'est-ce que c'est le smart farming, bien évidemment ? Il s'agit donc de la digitalisation des exploitations agricoles afin de récupérer tout un tas de données qui vont ensuite nous permettre, enfin, surtout permettre aux agriculteurs, d'avoir beaucoup plus d'informations sur leur culture. Ces informations seront ensuite traitées par des logiciels qui permettront d'aider les producteurs dans leur choix. Que ce soit pour calculer, par exemple, le moment optimal pour faire des récoltes ou alors pour calculer la quantité d'eau parfaite pour une exploitation. Alors, ces procédés sont déjà en application. Par exemple, dans le sud-ouest, il y a un arboriculteur, pardon, qui a donc divisé par 3 les quantités d'eau destinées à l'irrigation en période de sécheresse et qui a pu anticiper le gel nocturne de 4 hectares de vignes en 2019. Et donc ça, ça lui a permis de sauver 25 000 bouteilles de vin. D'autres exemples, par exemple, je sais que personnellement, j'étais à l'université de Toulouse et dans l'incubateur de cette université, il y a des étudiants qui avaient développé une application qui permettait aux vignerons, à l'aide d'images satellites, de voir quand est-ce que leur vigne était prête à être vendangée. Voilà. Mais c'est vrai qu'à en croire tous les patrons de ces entreprises, donc de Big Data, ce serait vraiment comme une solution miracle finalement. Et quelles en sont réellement les limites? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans le débat?
Oui, donc moi, comme tu as dit, ça paraît être un peu une solution miracle. Mais déjà, le premier truc qui serait intéressant de voir, parce que c'est un peu ce qui nous concerne tous ici, c'est l'impact écologique. Je pense que c'est un peu le plus important. Par exemple, on peut se demander, le premier truc qui vient en tête, c'est le stockage de toutes ces données. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais toutes ces données-là qui sont stockées, les données sur l'état des sols, l'humidité dans les sols, toutes ces données météo, etc., c'est tout stocké dans les grands centres de big data. Et ça, on sait déjà que l'impact écologique du numérique, il est beaucoup, beaucoup sous-estimé en général dans les pensées de la population. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais...
Moi, je suis un peu d'accord avec toi parce que c'est bien beau de faire beaucoup d'économies d'eau et de chercher à ne pas gaspiller. Ouais. Mais l'empreinte carbone, ça pollue énormément. Et toutes ces données, si on installe tous ces systèmes à tous les agriculteurs de France, ça va faire des masses de données. Ça va vraiment polluer encore plus que la perte d'eau, alors que l'eau, la terre, elle en produit encore. Donc, même si faut y penser quand même à toutes ces réserves, mais l'empreinte carbone, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger.
Oui, c'est ça. Et aussi, on peut voir aussi, mis à part l'empreinte du numérique, il y a aussi l'empreinte du physique, on va dire, qui est liée à ces installations, forcément, parce que tous ces capteurs, etc., il faut bien les installer. Voilà. Et aussi, il y a aussi l'installation du réseau, parce que souvent, les endroits ruraux, avec tous ces champs, c'est un endroit où il n'y a pas de 4G. Et donc, toutes ces installations-là, elles vont coûter énormément écologiquement parlant, tu vois.
Juste pour rebondir sur un chiffre, il faut quand même savoir que l'agriculture est responsable pour 30% de la consommation énergétique mondiale.
Ah ouais.
Donc c'est quand même un chiffre très important. Il faudrait peut-être essayer de le réduire de façon innovante, aussi peut-être en réduisant nos consommations. Je rebondis aussi sur ce que tu as dit. Le coût écologique est très grand, mais peut-être aussi le coût économique.
Mais c'est vrai.
Combien d'argent faut-il investir dans ces fermes pour qu'elles soient totalement automatisée et qu'elle donne des résultats rapidement.
Ouais, ça c'est vrai, et ça fait écho aussi au problème social qui est lié à ça, c'est-à-dire que comme tu as dit, ça coûte très cher tes installations au niveau économique cette fois-ci, en plus du niveau écologique, et du coup on peut se demander qui va avoir les moyens de se les offrir. Parce que certes, on a vu que ça fait économiser de l'eau, etc., ça fait également augmenter les performances de l'agriculteur, mais est-ce que les agriculteurs ruraux indépendants, on va dire, ils ont vraiment les moyens de s'acheter ces produits-là?
Oui, je suis totalement d'accord. Puis après aussi, il y a un problème, je pense, avec les agriculteurs. C'est ont-ils les compétences nécessaires pour savoir faire fonctionner tout ce numérique? Ils vivent parfois dans des zones parfois un peu reculées du monde, isolées. Je ne sais pas si déjà là-bas, il y a des bornes Internet. Et puis si après, ils ont réellement la volonté de se former à ces nouvelles technologies et ces nouvelles techniques.
Moi, je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'avant tout, avant de vérifier leur capacité à pouvoir utiliser toute cette technologie, il y a d'abord leur envie. Ouais. Est-ce qu'ils ont envie d'installer tout ça? Mm-hmm. Parce que si, par exemple, je prends le sondage qu'une société de Quincel, justement, c'est toutes ces installations et qui stocke les données dans une plateforme qui s'appelle Smart Farmers, ils ont fait un sondage et à peu près 50% des agriculteurs qu'ils ont... à qui ils ont demandé leur avis et tout. Mmh. Est-ce que 50% ne voulaient pas installer toutes ces installations parce qu'il y avait plein d'autres problèmes liés à ce numérique, comme la cybersécurité ou alors le fait de rendre public leurs données. Mmh. Parce que la volonté, c'est vraiment de mettre sur une plateforme toutes les données, de les rendre publiques pour qu'après plusieurs entreprises et tout, elles peuvent directement développer
ouais,
des systèmes.
Les utiliser ou bien...
Ouais, voilà.
Ouais, ouais, c'est vrai que ça pose aussi ce problème-là au niveau de la cybersécurité. C'est vraiment... Ça peut être problématique et du coup, on peut comprendre pourquoi les agriculteurs, ils peuvent être inquiétés, quoi. C'est un peu normal.
Je pense aussi, c'est très important, les agriculteurs vont avoir un rôle à redéfinir dans leur travail. Ils vont devoir trouver peut-être des nouvelles occupations. Et le changement, bon, je pense que tout le monde a peur du changement. Du coup,
forcément.
Je comprends le point de vue de ces agriculteurs. Même si bon, les technologies ont des...
Mais ouais, c'est ce que tu dis en fait, que les agriculteurs, ils n'ont pas forcément envie de ce changement-là et que ça se comprend. Mais ça permet également, on sait qu'on a un problème aujourd'hui au niveau de cette alimentation-là. On sait qu'il y a un problème dans l'agriculture mondiale et du coup, il faut trouver un moyen de le résoudre. Il y a un problème au niveau justement écologique, comme on l'a dit, mais également au niveau des quantités. On sait que tout ça, c'est fini. C'est-à-dire que ça va finir un jour.
Moi, je suis d'accord avec toi, mais après, il faut savoir que généralement, le métier d'agriculteur, tous ses secrets, bah, on ne les connaît pas vraiment parce qu'il est plus transmis de génération en génération.
Oh, c'est vrai.
C'est rare les personnes qui décident de devenir agriculteur comme ça. Il y en a qui décident d'aller tout plaquer pour aller élever des chèvres ou des choses comme ça. Mais... ça reste vraiment un secret qui reste assez familial et c'est pas évident à déceler tous les secrets et justement donc toutes les solutions au problème.
Ouais, c'est ça. Et du coup, ce qui peut se poser aussi, c'est est-ce que toutes ces technologies, aussi efficaces soient-elles, est-ce que ça peut remplacer l'instinct, on va dire, ou bien l'expérience de toutes ces années d'agriculture de génération en génération. Et ouais, c'est ça. Est-ce que ça peut vraiment remplacer ça? Ouais, c'est ça. Aussi, le problème, c'est que une seule erreur de ces techniques-là de smart farming et ça peut mener à des catastrophes pour un seul agriculteur. En tout cas, ça peut lui faire effacer toute sa plantation d'un coup, toute sa récolte de cette année, elle peut être pourrie juste à cause d'une erreur, je sais pas, d'un capteur qui est mal placé, qui s'est endommagé ou quoi que ce soit. Et ça, donc, c'est vraiment pas rien.
Mais moi, je pense que vous dites beaucoup que ça peut, enfin, il peut y avoir des erreurs, mais en fait, notamment le smart farming, pour moi, c'est vraiment, ça doit ramener, ça doit prévoir des choses qui sont vraiment imprévisibles. Par exemple, on en parlait dans l'exemple au tout début, par exemple, prévoir le gel d'une exploitation, même si on peut avoir alors des techniques, je sais pas, de grand-mère,
avec les grenouilles,
voilà, je sais pas, il y en a beaucoup qui ont des dons en gros pour prévoir ça, mais je pense quand même que la technologie, notamment une technologie qui est quand même assez aboutie, ça peut avoir quand même un petit peu moins d'erreurs que l'instinct d'un agriculteur, même si encore une fois, je ne remets pas du tout en cause cet instinct.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une façon de voir les choses. Mais ouais, dans tous les cas, on a un problème et il faut trouver un moyen de le résoudre. Est-ce que c'est par le smart farming ou par autre chose? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, on sait que le smart farming, ça permet d'augmenter l'efficacité. Donc ça peut être une des solutions à voir comment régler tous ces désavantages, en tout cas.
Après aussi, l'un des problèmes qu'on a pu rencontrer avec ce système-là, c'est qu'il y a beaucoup de cibles d'attaques informatiques avec les hackers, tout ça. Et ça me fait un peu peur parce que je me dis que ça pourrait peut-être diminuer fortement les rendements dans certaines zones. Par exemple, si un agriculteur est vulnérable car il n'est pas forcément apprécié pour ses techniques ou son passé, il pourrait y avoir rapidement des nuisances avec des hackers qui pourraient vouloir un peu faire des défaillances dans le système pour vraiment détruire les récoltes. Et ça me pose un peu un problème d'aspect éthique.
Ouais. Et aussi, ce dont on n'a pas parlé, c'est un point de vue, je sais pas si c'est un point de vue éthique, mais c'est... comment ça marche concrètement, c'est que souvent, ça utilise des données satellites également. Donc ça pose un problème au niveau de l'utilisation de ces données, de d'où elles viennent, parfois d'entreprises privées qui ont des intérêts, comme d'habitude. Donc ça aussi, c'est un problème à prendre en compte. L'utilisation de drones, qui parfois peut être... Enfin, c'est utilisé en tout cas des drones dans le smart farming, mais du coup, est-ce que ça peut être utilisé pour autre chose en même temps, ou bien utilisé par, je sais pas, des concurrents ou de voisins, ou je sais pas, des trucs comme ça. On peut imaginer plein de choses. Avec ces problèmes-là.
Oui, je pense qu'il y a problème avec les grandes entreprises de l'agriculture, par exemple Monsanto, qui ont des polémiques depuis des dizaines d'années.
Ouais. On entend beaucoup parler.
Polluer des zones du monde. Est-ce que dans cette transition vers une agriculture plus technologique, est-ce qu'ils vont être d'aide ou est-ce qu'ils vont recauser des problèmes? Donc c'est aussi un problème à voir parce que les corporations privées qui cherchent à faire des bénéfices ne sont peut-être pas dans la même optique que les agriculteurs
c'est ça.
Qui veulent produire.
Oui, mais justement, sur ce point-là, j'aimerais rebondir parce que donc effectivement, c'est un petit peu en fait l'agriculture avec donc les géants comme Monsanto. C'est vrai que c'était quelque chose, enfin c'est quelque chose qui aujourd'hui est un énorme problème. Et est-ce que finalement l'arrivée du smart farming et du coup du big data qui est finalement plutôt en libre service, il y a énormément de logiciels qui permettent d'aller chercher de la data qui sont totalement libres. Mmh. Est-ce que ça amènerait pas justement d'autres acteurs qui ont peut-être moins d'intérêt économique, notamment pour des logiciels libres ou avoir un libre accès aux données? Est-ce que ça permettrait pas justement de se détacher de ces grands groupes et de produire un petit peu plus éthiquement, entre guillemets?
C'est vrai que c'est une des façons de voir les choses. Ça va à l'encontre de ce que j'ai dit juste avant. Par rapport au fait que ce sera sûrement utilisé que par les gens qui ont les moyens de se le payer. Mais on peut imaginer, comme tu as dit, un autre monde où, avec des collaborations, par exemple, entre ingénieurs, je sais pas, et agriculteurs, des choses, comme tu as dit, en libre accès, qui permettent justement à des agriculteurs indépendants, on va dire, qui n'ont pas des moyens énormes, de pouvoir concurrencer. Justement, ça peut être un moyen pour eux de concurrencer avec ces grosses entreprises.
Mais après, généralement, justement, ces agriculteurs qui ont pas les moyens et tout, ils sont obligés de trouver une contrepartie pour pouvoir financer tout ce système que tu installes. Mmh. Et généralement, c'est des parts sur leur chiffre d'affaires ou alors des parts sur leur terre directement. Et c'est un peu pour ça que certains agriculteurs, ils restent assez pessimistes sur ce smart farming parce qu'ils veulent quand même, ils ont peur de perdre le contrôle de leur terre et de leur, de leur récolte.
Ouais, ça se comprend. C'est-à-dire, ce que tu dis, c'est qu'actuellement, en tout cas, avec les techniques actuelles de smart farming, les entreprises privées, elles prennent des parts, c'est ça? Donc, ouais. En vrai, c'est vrai que c'est pour ça, actuellement, en tout cas, c'est difficile à ce niveau-là, au niveau social. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer un monde.
En fait, je pense que la chronique d'Antoine est très, très intéressante parce que, dans un niveau plus local, je pense que l'agriculture urbaine, mais aussi de manière verticale dans des entrepôts, des choses comme ça, peut permettre à des maraîchers locaux de produire des fruits et des légumes et de les vendre parce qu'il n'y a pas de coût de transport, etc., d'avoir un prix concurrentiel et donc d'avoir peut-être un cas économique à faire.
Là-dessus. Ouais, c'est ça, un nouvel moyen de produire.
Ouais, carrément. Puis ça favorise surtout aussi l'aspect local, vraiment familial, où on peut faire ça en famille. Parce que là, c'est vrai que le smart farming, on a l'impression que c'est un peu une entreprise déshumanisée où c'est un logiciel qui va tout faire, une intelligence artificielle qui va vous dire « Oui, bah tiens, c'est bien, faites ça aujourd'hui, il fait beau temps. » Alors que vraiment, avec la culture urbaine, je pense plutôt on se rapproche d'un mode de consommation qu'on avait avant et je pense que ça peut peut-être intéresser plus de gens que le smart farming. Même si après, le smart farming a beaucoup d'avantages, comme on vient de le dire.
Mais justement, donc pour revenir sur ce que tu dis et ce qu'on disait avant et ce dont on va discuter dans le prochain débat également, c'est qu'il y a de moins en moins, on le sait, d'agriculteurs aujourd'hui et il y a peu de gens, comme tu l'avais dit, qui se lancent maintenant dans l'agriculture. C'est plutôt un métier familial qui se transmet de génération en génération et souvent, des fois, ça s'arrête. Il y en a qui, les ruraux deviennent urbains et on perd des agriculteurs comme ça. Est-ce que justement ces applications-là, vu qu'elles aideraient des gens qui n'ont pas vraiment de connaissances dans l'agriculture, qui n'ont pas les rudiments, est-ce qu'elles les aideraient pas à se lancer comme nouveaux agriculteurs dans ce domaine?
Ouais, de rendre accessible, c'est ça.
C'est ça, beaucoup plus accessible.
Quand on parlait des compétences transmises de génération en génération, ça paraît très inaccessible pour quelqu'un qui veut se lancer. Donc c'est vrai que le smart farming ou bien des technologies qui peuvent aider à ça, ça peut aider.
Et je pense aussi que ça réduit aussi les tâches les plus pénibles de l'agriculture, la plus rurale. Si tu dois planter les graines et après les ramasser en été quand il fait chaud, est-ce que tu ne peux pas automatiser certains processus?
C'est vrai aussi.
Donc, permettre peut-être d'être agriculteur plus longtemps, jusqu'à un plus long âge.
Oui, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de pénibilité, en tout cas dans ce domaine, donc ça rend difficile le travail âgé. C'est vrai que ça rend aussi... le smart farming permet également de rendre moins pénible.
Je suis un peu d'accord avec ça, ça rend plus facile pour les agriculteurs en tout cas, mais après il faut essayer de voir loin et de s'imaginer que justement tout ce monde du numérique, il prend de plus en plus de place jusqu'à parfois perdre le contrôle ou des choses comme ça. On peut s'imaginer que ça prenne tellement de place que l'agriculteur, il est amené à perdre, on va dire, entre guillemets, son métier, même si on est encore loin de ça. Mais en tout cas, ça peut... Il faut garder certaines limites, je pense, pour l'avenir. Mais en tout cas, la question de juste faciliter ses tâches et tout ça, je pense que ça peut être intéressant.
Ouais, forcément, quand on te dit que ça va rendre ton métier beaucoup plus simple, beaucoup plus facile plutôt, physiquement parlant, c'est sûr que c'est très attirant.
Et c'est pour ça aussi, tout à l'heure, on parlait du fait que 50% des agriculteurs soient donc contre ces nouvelles technologies. Est-ce que finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas un manque d'information? Est-ce qu'ils ne seraient pas assez informés sur ce que ça pourrait vraiment leur apporter et d'où viennent ces données, quoi?
C'est vrai qu'il y a peut-être un manque d'information à ce niveau-là, mais peut-être aussi qu'il y a un manque de confiance. C'est-à-dire, peut-être que c'est lié également. Que le manque d'information génère le manque de confiance, mais je pense aussi que peut-être que du point de vue des agriculteurs, en tout cas, ça paraît un peu comme les remplacer. Ce qu'on voit souvent, c'est un débat qui revient assez régulièrement, les ouvriers qui sont remplacés par des robots, etc. Je pense que de ce point de vue-là, au niveau plus émotionnel de leur part, ça peut les rendre réticents à ce niveau-là, peut-être.
Oui, je suis totalement d'accord. Parce que d'un point de vue économique, ça peut faire sens très rapidement.
C'est ça.
De remplacer certaines choses.
Ça peut être très rentable.
Mais oui, mais c'est clair que les gens, ils ne veulent pas changer. Ils ont peut-être pas envie de changer leur tradition, comme tu as dit, de père en fils. Et c'est un changement très grand qui affecte toute la société, l'automatisation et la digitalisation. Donc en fait, je crois qu'ils ne sont pas seuls dans ce combat et dans cette situation. Mmh.
Mais si on revient un petit peu sur le débat... sur le débat, est-ce que c'est vraiment écologique donc ces données-là. C'est vrai que, après ça c'est personnel, hein, mais moi je trouve qu'il y a peu de gens qui sont quand même qui se rendent compte que toutes ces informations-là elles sont stockées quelque part en physique et que c'est vraiment ce stockage-là qui consomme énormément d'énergie. C'est partout pareil, hein, notamment dans les crypto-monnaies, dans le big data. Mais c'est vrai que est-ce qu'il manquerait pas un petit peu d'informations là-dessus aussi?
Ouais, carrément, c'est sûr qu'il manque beaucoup d'informations à ce niveau-là, car on a souvent tendance à mettre en avant le fait, par exemple, l'optimisation de la gestion en eau, tout ça. Mais on n'en parle pas assez, par exemple, des composantes des drones qui polluent énormément, l'installation des bornes électroniques qui polluent aussi énormément, et de toute la pollution vraiment qui est liée au numérique et qui est un peu invisible.
C'est ça, c'est même en général, sans forcément parler d'agriculture, tu as raison que le numérique, dans l'inconscient collectif, j'ai envie de dire, c'est très très souvent sous-estimé, et énormément sous-estimé, je pense que... Vraiment très peu de monde a idée que quand on regarde un film Netflix, on consomme vraiment énormément en réalité. Je pense que ça peut s'appliquer même également et surtout à ce smart farming qui génère des grosses quantités de données.
Oui, surtout que vraiment le smart farming, c'est traiter des immenses données, sinon ça ne sert à rien. Bon, écoutez, merci beaucoup messieurs
pour
ce débat. Donc maintenant, on en sait un petit peu plus sur le smart farming. Du coup, maintenant, nous allons discuter donc d'une nouvelle innovation en cours. Cette innovation, c'est les robots abeilles. Et c'est Agathe qui va nous le présenter. Bonjour Agathe.
Bonjour tout le monde.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces robots?
Bah oui, aujourd'hui je vais vous parler des robots abeilles. Donc je suis sûre que nombre d'entre vous ont déjà entendu parler de la célèbre série Netflix Black Mirror. Cette série qui remet en cause l'utilisation par l'homme des nouvelles technologies et le domaine de l'agriculture n'y a pas échappé. On voit dans un épisode l'essor de robots abeilles qui sont détournés pour servir d'armes. Et si ces robots abeilles n'étaient plus fictifs, mais bien réels? La disparition des abeilles est un problème bien présent, à ne pas prendre à la légère. Selon Greenpeace, 75% de la production mondiale de nourriture dépend des insectes pollinisateurs. C'est Albert Einstein qui affirmait que si les abeilles disparaissaient de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. Mais c'est un écosystème entier qui se retrouverait affecté par ce problème. 80% de nos espèces végétales dépendent de la pollinisation pour survivre. Ce déclin est liée à la modernisation agricole, avec la simplification des paysages et l'utilisation massive de pesticides, notamment les pesticides néonicotinoïdes, extrêmement dangereux pour les abeilles. L'imperméabilisation des sols, donc lorsqu'ils sont recouverts d'un matériau imperméable à l'eau et à l'air, pour la construction de routes par exemple, y est également pour quelque chose. Cela engendre la fragmentation et la destruction de l'habitat des abeilles. Le frelon asiatique est aussi une grande menace pour elles. Rendez-vous compte, 5 frelons asiatiques suffisent pour décimer une ruche entière. Pour faire face à ce problème, dans certaines régions en Chine, des hommes abeilles pollinisent à la main les vergers. Cette technique, peu précise, entraîne également de grands risques. Les hommes abeilles doivent monter dans les arbres et effectuer le travail à l'allure que le ferait une abeille, vous imaginez? Le secteur de l'innovation propose une autre solution, les robots abeilles. C'est en 2016 que le géant américain Walmart dépose un brevet d'abeilles robotisées. Grâce à de minuscules caméras, les robots détecteraient le pollen, puis le déplaceraient de plante en plante en identifiant les cultures qui en ont le plus besoin. Ces robots constitueraient une avancée technologique incroyable. Opérationnels même la nuit, contrairement aux abeilles, on pourrait polliniser plus, donc produire plus, et répondre aux besoins d'une population qui s'accroît en évitant la catastrophe liée à leur disparition. Néanmoins, polliniser efficacement des cultures est un défi de taille. C'est la diversité écologique et comportementale des pollinisateurs qui détermine l'efficacité de la pollinisation et le rendement des cultures. Cette condition ne pourra pas être remplie par les robots abeilles. D'un point de vue économique ensuite, cette solution ne serait pas non plus viable. On considère que le prix d'un robot abeille s'élève à une centaine d'euros. Pour remplacer l'intégralité des abeilles aujourd'hui présentes en France, en Belgique et au Royaume-Uni, il faudrait compter plus de 6 640 milliards d'euros, soit le PIB de la République démocratique du Congo. Un kilogramme de pommes produit grâce au robot abeille coûterait à minima 320 euros. Et ce n'est pas tout. Cette invention serait catastrophique d'un point de vue environnemental. Des métaux rares seront extraits puis transportés pour leur production. De l'énergie sera dépensée pour réparer les problèmes techniques des robots. Et qu'en sera-t-il de leur recyclage? Ces nouvelles abeilles n'ont pas encore vu le jour qu'elles suscitent déjà de nombreuses inquiétudes environnementales, incompatibles avec le modèle vers lequel nous voulons et devons nous tourner. Le transfert de pollen d'une plante à l'autre pour produire des graines ou des fruits est un phénomène infiniment complexe, que la nature a complexifié et ajusté depuis plus de 120 millions d'années. Remplacer cette biodiversité sauvage par une armée de robots volants perturberait l'équilibre délicat des espèces déjà présentes et dépendante des écosystèmes agricoles et naturels. Ce coup de baguette technologique, surfant sur la vague médiatique positive du biomimétisme, nous éloigne de la question du pourquoi. Ces robots abeilles ne servent qu'à guérir, mais non à prévenir. Pourquoi ne pas s'attarder sur les causes de ce déclin et tenter de régler ces problèmes-là, plutôt que de fermer les yeux dessus et inventer de quoi les détourner? Pourquoi ne pas innover pour accompagner la régénération des abeilles, plutôt que d'innover pour les remplacer? L'adaptation de nos pratiques agricoles, une hétérogénéisation de nos paysages ou bien la recherche d'alternatives aux pesticides de synthèse serait un bon rendez-vous. Et vous qui nous écoutez, qu'en pensez-vous? Les robots abeilles, miracle ou désastre?
Et merci beaucoup Agathe pour cette chronique donc, sur les robots abeilles. On va faire juste quelques minutes de pause. Restez bien connectés sur Graphite et n'oubliez pas donc d'envoyer vos réactions sur le hashtag Les Échos de l'innovation sur Twitter.
Always looking out. gotta say I'm in it, I feel bad, and I don't take the shit with you too. So I gotta grab the club all night, on Tuesday. Got you girl in a great shake Tuesday. Club go night, on a Tuesday. Got you girl in a great shake Tuesday. Club go night, on a Tuesday. Got you girl in a great shake Tuesday. Club go night, on a Tuesday.
Et rebonjour tout le monde. Donc vous êtes bien sur Graphite 94.9 FM. Vous écoutez Les Échos de l'innovation. Donc c'est une émission tenue par des étudiants en parlant un petit peu d'innovation avec des sujets chaque semaine. Le sujet d'aujourd'hui donc c'est l'innovation dans l'agriculture, miracle ou désastre. Pour y répondre, nous avons débattu avant la pause sur l'utilité ou bien ou non du smart farming. Et nous allons maintenant discuter sur de nouvelles techniques de production avec à ma gauche Hugo.
Yes, salut à tous.
Et en face de moi, Julien.
Salut à tous.
Donc juste avant de commencer ce débat, un petit extrait d'Interstellar.
Avec ce fléau, le blé, il y a 7 ans, le gombo, cette année, reste plus que le maïs.
Et on en cultive plus que jamais.
Mais comme la pomme de terre dans l'Irlande du 19e et le blé dans les grandes plaines des années 30, le maïs va mourir. Bientôt.
Alors, on sait qu'aujourd'hui, le métier d'agriculteur ou alors le métier d'éleveur n'attire plus grand monde. Donc on en avait discuté dans le premier débat notamment. Donc il y a également de moins en moins de terres cultivables puisque la ruralité recule par rapport à l'urbanisme. Et donc ces terrains-là se font souvent acheter par des promoteurs immobiliers ou autres et donc ne produisent plus rien. Donc c'est simple, hein, si on regarde juste les chiffres, donc aujourd'hui il y a 4 fois moins d'agriculteurs qu'il y a 40 ans. Donc aujourd'hui ça représente 1,5% des emplois en France, alors qu'en 1982 par exemple, ça a représenté 7,1%. Alors, il y a moins d'agriculteurs et pourtant, la population, on le sait dans le monde entier et en France aussi, ne cesse d'augmenter et donc forcément les besoins en nourriture augmentent avec. Et donc, c'est là que les innovations de la production rentrent en jeu. Est-ce qu'il vaut mieux produire beaucoup de manière efficace? Mais est-ce que c'est vraiment bénéfique? Est-ce que ça va vraiment nous faire éviter ce problème-là donc de la faim dans le monde temporairement ou alors sur le long terme? C'est la question évidemment qu'on peut se poser. Du coup, qu'en pensez-vous?
Du coup, Greg, moi je pense que du coup, comme tu l'as dit, la population augmente, donc les besoins augmentent avec, que ce soit de nourriture, que ce soit pour la viande ou tout ce qui est le côté végétal, tout ça. Et donc, avec le manque d'agriculteurs, comme tu le disais aussi, cela fait que on est en manque d'effectifs, manque de terres, tout ça, et ça incite à faire que ce soit de l'agriculture ou de l'élevage en masse. Et je pense, de mon point de vue, que ce n'est vraiment pas une bonne chose. Par exemple, dans 2 élevages sur 3, les animaux sont élevés de façon industrielle et ça représente 50 milliards d'animaux chaque année dans le monde. Donc, partez du principe qu'il y a 50 milliards d'animaux dans le monde qui ne voient même pas la lumière du jour et qui sont élevés juste pour être abattus. Donc, c'est juste quelque chose de très triste parce que les animaux, c'est des êtres vivants à la même échelle que nous. Donc, c'est très triste de voir ça. Et ces systèmes d'élevage intensif donnent priorité à la production sur tout le reste, créant ainsi de gigantesques quantités de viande, de lait et d'œufs qui sont apparemment bon marché. Et pourtant, le coût de l'élevage industriel est élevé et la perte aussi, parce que les animaux sont traités comme des marchandises et souvent confinés à l'extrême. L'élevage industriel dépend fortement de grandes quantités de ressources précieuses telles que les cultures, l'eau, l'énergie et les médicaments pour nourrir le bétail ou alimenter les végétaux. L'élevage intensif est pas seulement mauvais pour les animaux, il est aussi dangereux, il est injuste et déloyal et peut avoir des impacts allant du changement climatique à la perte de la biodiversité et des maladies à la sécurité alimentaire. L'élevage intensif est trop souvent vu comme une solution efficace et peu chère pour nourrir notre planète, mais c'est complètement faux. Pour 1000 calories de culture comestible données à manger au bétail, on peut en ressortir seulement 30 sous forme de viande ou de produits laitiers. Ça représente une perte de plus de 70%. C'est juste énorme. Donc, on pense vraiment que cette forme d'élevage d'agriculture est rentable, mais c'est tout l'inverse. C'est juste une façade. Et oui, en résumé, les hommes sont en compétition avec les animaux d'élevage pour se nourrir. Et évidemment, il existe de meilleures pratiques. Qu'est-ce que seraient de meilleures pratiques ? Ben, ça serait des pratiques qui respectent trois points. Dans un premier temps, ça serait des pratiques plus sûres qui promouvent notre bien-être à nous et celui des animaux d'élevage à la même échelle que nous. Le deuxième point serait un élevage plus juste en soutenant les moyens de subsistance ruraux et en réduisant la pauvreté, pourquoi pas. Et dans un dernier point, bien sûr, le mot qui revient sûrement, plus écologique, en protégeant la planète et ses précieuses ressources. Donc pour ça, il faudrait plutôt utiliser l'agriculture durable. Mais l'agriculture durable, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est le développement durable. Et ça a pour objectif le développement économique actuel, sans compromettre les ressources et la qualité de l'environnement des générations futures. L'agriculture durable, elle est basée sur les trois piliers du développement durable, l'écologie, le social et l'économique. L'agriculture intensive, elle, on la nomme également agriculture productive. C'est un système de production agricole qui se caractérise par l'usage important d'intrants, excusez-moi, et qui a pour mission d'amplifier le taux de production par rapport aux facteurs de production, qu'il s'agisse de la main-d'œuvre, du sol ou des autres moyens de production. Donc ça permet de compenser ce manque d'effectifs, ce manque de terres agricoles, mais c'est juste néfaste pour ça peut être pour la santé de nous-mêmes ou même pour la planète en général. Mais il existe quand même deux systèmes différents d'agriculture intensive, avec l'une qui pollue plus que l'autre. Donc je vais vous parler du système moderne. En gros, le système moderne, c'est aussi appelé du coup l'agriculture intensive. Et contrairement au système traditionnel, le système moderne a un réel impact sur l'environnement, du fait que ce système est principalement recours à des robots ou à des machines au détriment de la main-d'œuvre humaine. Et l'intensification demande alors des investissements considérables et n'utilise plus d'importants d'entrains comme l'engrais, les produits phytosanitaires, le matériel agricole et l'énergie. Et bien sûr, ça utilise beaucoup d'OGM qui sont très néfastes pour l'environnement et pour notre santé en général.
Alors moi, je ne suis pas forcément très d'accord avec toi, parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur les OGM et on ne sait toujours pas si elles sont vraiment néfastes pour la santé. De plus, tu nous as parlé en fait de l'aspect un petit peu économique du développement durable et même l'aspect écologique. Et les OGM en fait pourraient permettre d'y répondre. On sait que les OGM en fait permettent de réduire énormément d'intrants, donc tous les produits phytosanitaires, tous les insecticides, herbicides, tout ça. Donc ça permet d'améliorer, disons, la recette de l'agriculteur. Ils dépensent beaucoup moins. Et puis, notamment au niveau de l'environnement, il y a beaucoup moins d'intrants. Donc, la pollution des sols, elle est vraiment moins affectée, disons.
Tu parles des agriculteurs qui dépenseraient beaucoup moins. Je ne suis pas d'accord sur ça, parce que les OGM, ça crée des plantations stériles. Ça fait qu'après la première récolte, on ne peut plus utiliser ces plantations. On est obligé d'en racheter encore une fois. Donc au final, c'est juste pour une année, pour une saison, pour une récolte. Donc ça ferait racheter chaque année des plantations aux agriculteurs. Donc d'un point de vue économique, peut-être que sur la saison, sur la récolte, peut-être que ça serait avantageux pour les agriculteurs. Mais si on parle de long terme, c'est sûr que les agriculteurs seraient perdants en utilisant les OGM.
Après, il y a des chiffres qui parlent. Hein. On voit qu'il y a une augmentation de la productivité des cultures de 22% grâce aux OGM. On utilise 37% de moins de pesticides. Donc...
il y a une augmentation du profit des agriculteurs qui est d'environ 68%. Donc c'est plutôt intéressant.
Après, il faut se baser sur le fait aussi que les OGM, ça reste quelque chose qui n'est pas naturel. C'est génétiquement modifié par l'homme. Donc ça peut créer dans notre corps, dans notre organisme, un cocktail, comme ils disent, c'est la diversité des substances chimiques en contact avec le corps chaque jour. Et pour certaines personnes, ça peut créer par exemple des allergies. Et les OGM ont également un impact sur l'environnement. Les herbes indésirables se développent. Elles deviennent plus résistantes aux désherbants. Et dans ce cas, on utilisera davantage de désherbants, du coup encore plus, vu qu'elles seront encore plus résistantes et ça sera un système sans fin. Ensuite, les agriculteurs, du coup, ils vaporisent beaucoup plus d'herbicides parce qu'ils en vaporisent plus qu'il faut parce que du coup, leurs plantes sont plus résistantes et ils savent qu'elles peuvent résister, donc ils en mettent encore plus. Et enfin, le coût des produits achetés grève à une partie de revenus des producteurs. Ça leur fait dépenser de l'argent qu'ils auraient pu utiliser ailleurs pour améliorer leur récolte d'une autre façon.
Après, on fait face à beaucoup de désinformation. Beaucoup de personnes sont bornées sur le fait que les OGM sont une mauvaise chose. Mais il faut savoir qu'il y a plus de 100 prix Nobel de physique, de chimie et de médecine qui ont ratifié, qui ont signé un appel à Greenpeace et au gouvernement pour cesser les actions anti-OGM. En fait, c'est plutôt les gouvernements qui ne sont pas très d'accord vis-à-vis de ça, alors que les scientifiques le sont. Donc il y a vraiment un réel problème vis-à-vis de ça.
C'est vrai que les OGM font débat, que ce soit entre les scientifiques, l'État et tout ça, mais c'est quand même montré que ce n'est pas forcément la meilleure solution. Alors oui, ça peut être une solution, parce que c'est très pratique, il faut se l'avouer, mais est-ce que c'est la meilleure solution ? Ça, je ne pense pas. Je pense qu'il y a une meilleure solution. On peut parler de l'agriculture biologique, donc cette agriculture que tout le monde connaît, basé sur un mode de production, évitant l'utilisation d'engrais composés de produits chimiques, de synthèse, ainsi que d'OGM, du coup, bien sûr. Et la préservation des sols et le respect des équilibres naturels sont deux autres principes fondamentaux de l'agriculture biologique. Mais la question, c'est est-ce que l'agriculture biologique respecte-t-elle l'environnement ? Oui, indiscutablement, je pense qu'il n'y a pas de débat sur ça. Il n'y a pas de pesticides ni d'herbicides chimiques, pas de fertilisants de synthèse ni de semences génétiquement modifiées. Elle préserve la vie du sol, protège les eaux souterraines et minimise les gaz à effet de serre. Et pour les élevages, ça n'utilise pas d'antibiotiques pour le bétail. Donc c'est juste, il n'y a juste que des points positifs envers le respect de l'environnement. Et quand on voit la situation actuelle de notre planète d'un point de vue de pollution, qu'on s'approche peut-être d'une fin du monde, même si c'est un peu extrémiste de dire ça dans quelques années. Mais l'écologie, l'environnement est vraiment un sujet d'actualité et cette culture biologique permet de respecter un maximum cet environnement.
Après, quand on dit qu'on produit bio, c'est pas forcément qu'on respecte l'environnement, quoi. En ce moment, c'est plus une tendance pour arrondir nos fins de mois en tant qu'agriculteur. On fait ça par obligation de moyens, non de résultats. Interdire aux agriculteurs d'utiliser des pesticides et engrais chimiques, ça ne signifie pas que leurs produits en seront totalement exempts. Parce qu'on sait qu'il y a vraiment beaucoup de pollution des sols, donc les sols ils sont vraiment souillés par tous nos engrais qu'on a fait avant, donc ça n'existe pas, l'agriculture bio n'existe pas en ce moment.
Je ne suis pas d'accord sur ça, il existe, du coup là tu rentres dans le sujet de la sûreté.
Oui, est-ce que la filière bio est sûre ?
Oui, elle est sûre, peut-être donc, il y a quelques années, à son commencement, au tout début, bien sûr qu'elle n'était pas sûre. Il y avait des traces partout. Peut-être que les agriculteurs vendaient ça comme de la nourriture bio, alors que ça ne l'était pas forcément, puisqu'il n'y avait pas de preuve, rien. Mais depuis quelques années, il existe la filière bio, le label agriculture biologique en France, qui identifie et certifie chaque produit bio. Donc chaque produit qui est vendu bio, il y a le label vendu sur l'emballage, c'est certifié. Il y a des vraies recherches derrière qui valident ou non si l'aliment est biologique ou pas.
Après, il faut savoir que depuis le 1er janvier 2009, les critères du label sont alignés sur le label bio européen, qui sont, eux, moins contraignants que le label agriculture biologique initial. Il autorise notamment la présence de traces accidentelles d'OGM dont on vient de parler. Donc,
En même temps, c'est sûr que si, comme avant 2009, on était vraiment très restrictif sur ça, On ne pourrait pas manger bio, parce que là, à un moment donné, bio, manger bio, cultiver bio, c'est vraiment devenu une solution, je pense que c'est vraiment devenu nécessaire pour notre planète. Et si on commence à vraiment limiter chaque trace de ça peut être d'empreinte carbone, de plein de choses comme ça, on ne pourrait pas manger bio, il n'y aurait pas assez, ça coûterait beaucoup plus cher que déjà ça coûte. C'est vrai que c'est un défaut de l'agriculture bio, ça coûte un peu cher. Ça coûterait d'autant plus cher, parce que ça serait d'autant plus rare. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas tout contrôler, et donc on a besoin d'être un peu plus relâche sur certains points, parce que sinon, les aliments biologiques, l'agriculture biologique qu'on connaît actuellement, elle n'aurait pas pu prendre de l'ampleur comme elle est actuellement, même si, selon moi, ça ne suffit pas encore. C'est pour ça qu'on a besoin d'être un peu relâche sur ce côté-là, parce que c'est impossible de tout contrôler, de vraiment tout contrôler.
Ok, ok. On a bien vu vos deux points de vue. On a vu qu'il y en a quelques-uns qui étaient pour l'agriculture biologique plutôt, et d'autres qui étaient pour l'innovation, les OGM, et donc une approche un petit peu plus productiviste sur l'agriculture. Juste rapidement, on a vu ces deux solutions-là. Est-ce qu'il existe aussi d'autres alternatives à ces solutions ? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de produire que le bio ou les OGM ? Rapidement.
Alors oui, en fait, c'est une solution qui est un peu moins connue, mais qui est présente partout, même dans nos assiettes ou même dans les repas de nos chers animaux. C'est la sélection variétale. C'est le métier du sélectionneur, qui consiste en fait à créer de nouvelles variétés à partir des variétés déjà préexistantes, en croisant en fait entre elles, on croise les plantes entre elles pour choisir leur qualité, pour choisir donc des bonnes qualités qui pourraient donc correspondre à notre type de sol, etc. Je pense notamment à la résistance au froid, à la taille de l'épi, si on parle de blé, etc. Et avec les biotechnologies, il est aujourd'hui possible de disposer donc de ces informations sur le patrimoine génétique des plantes, qui permet en fait d'anticiper donc les résultats potentiels des croisements entre les parents. Mais le problème, c'est que ça dure très longtemps, c'est environ 15 ans, parce que ça demande des épreuves qui sont diligentées par l'État, et puis des étapes pour protéger sa création. Donc c'est vraiment à différencier en fait des OGM. C'est une technique qui est différente, parce que on n'utilise pas de transgénèse en fait. Le gène n'est pas directement introduit dans la plante. On va prendre un gène d'une plante qui est intéressant, et puis on va le croiser avec une autre plante pour obtenir celle-ci. Voilà.
Ok, super intéressant. Hugo, peut-être un avis sur cette technique. Est-ce qu'elle te paraît efficace?
Je pense que ça peut être une bonne alternative. Après, le temps de mettre tout ça en place, parce que l'agriculture française est déjà bien en place, le temps de mettre tout ça en place, même de dépendre que de ça, je pense que ça serait compliqué. Sur le long terme, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'actuellement, ça pourrait être une solution qui respecterait à la fois l'environnement et le bien-être des hommes quand ils se nourrissent de ça. Donc je pense que ça peut être une bonne alternative. Après, voir dans la mise en place tout ça, est-ce que c'est vraiment quelque chose de réaliste qu'on peut vraiment réaliser, ou c'est juste quelque chose d'assez fictif et on n'a pas encore les moyens, on n'est pas encore assez avancé pour utiliser cette alternative-là.
Et ben voilà qui conclut notre débat. Merci à vous. Deux avis divergents, c'est normal. On est là pour les débats. Dans cette émission, il y a beaucoup de débats, mais aussi on apprend des choses. Et donc, on va tout de suite passer à une chronique de Fatine. Bonjour Fatine.
Bonjour.
Donc chronique sur l'aquaculture. Alors l'aquaculture, qu'est-ce que c'est ?
Eh bien oui, alors pour continuer sur ce sujet, il existe un type d'innovation agricole qu'on appelle tout simplement l'aquaculture innovante. Alors ce phénomène se répand d'autant plus vite qu'on ne le pense. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Ce sont de nouveaux moyens d'aquaculture afin de réduire l'impact environnemental et, en même temps, mieux correspondre aux critères des clients. Il y a par exemple l'entreprise Lysaqua, située à Nantes en Loire-Atlantique, qui se spécialise dans ce domaine depuis février 2018. Ils utilisent ce que l'on appelle une aquaculture indoor, donc élèvent des crevettes tropicales de A à Z dans des bassins situés dans une entreprise, en passant par différentes phases de grossissement, de maturation, etc., afin de les revendre localement. Parce qu'en effet, les cultures de crevettes sont particulièrement présentes dans les pays asiatiques comme la Thaïlande ou le Vietnam et sont en surproduction. Elles détruisent plus particulièrement les mangroves. Donc cette aquaculture indoor nous permet de garantir une certification qu'ils appellent certification triple zéro. Le premier est pour 0 km pour dire qu'elles sont produites donc localement, 0 antibiotiques et 0 rejet polluant. Niveau innovation, l'Isaqua est notamment particulière car elle a développé la permaquaculture, une méthode de production qui associe différentes espèces complémentaires pour recréer un écosystème marin. Ce procédé permet de valoriser les coproduits et de supprimer les rejets de l'élevage. En plus de tout cela, l'apport d'aliments des crevettes est réduit de 20% grâce à un procédé appelé la biofiltration. Mais en clair, c'est quoi, vous allez me demander? Eh bien, c'est le fait d'introduire une communauté d'organismes planctoniques, donc des bactéries, des microalgues, etc., dans le bassin afin qu'ils utilisent une partie des déchets azotés des crevettes en rendant les planctons disponibles aux crevettes en même temps. C'est donc une boucle nécessitant d'être parfaitement maîtrisée pour son bon fonctionnement. Ce type d'agriculture se prétend être durable, mais l'est-elle vraiment? C'est pour l'instant faisable à petite échelle. Mais qu'en est-il à grande échelle? Nous l'espérons pour notre futur, que c'est le cas et que ça marchera. Et rendez-vous dans quelques années pour vérifier tout ça. N'hésitez pas à nous laisser également votre avis sur ces innovations sur nos réseaux sociaux tels que Facebook, Graph*It. Et voilà. Merci bien.
Merci beaucoup Fatine pour donc cette chronique sur l'aquaculture. Et oui, effectivement, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur le site internet, sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter, le hashtag Les Échos de l'innovation. On lira toutes vos réactions, bien évidemment. Donc voici ce qui conclut notre émission. Donc tous ces débats nous ont amenés à apporter des éléments de réponse à notre première question qui était « Innovation dans la culture, est-ce un miracle ou alors un désastre ?» Donc on peut dire c'est que une chose est sûre, oui, l'innovation aura un rôle à jouer dans les années qui viennent pour répondre à la population qui augmente d'année en année. Mais il est très important de faire attention à l'environnement, puisque le but, quand même, c'est que toutes ces personnes qui arrivent sur notre planète puissent vivre avec une planète pas trop détruite, si possible. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. N'hésitez surtout pas à réagir sur le hashtag de l'émission. Et abonnez-vous aux réseaux sociaux de la radio. Et merci à vous tous pour vos interventions. À la semaine prochaine.